France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Récemment, des juges, des vrais, indépendants des autres pouvoirs, ont prononcé des condamnations inédites à l'endroit de personnalités politiques, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy notamment. Ces jugements, rendus au nom de la défense de la démocratie, leur a valu d'inacceptables menaces. Inversement, depuis des années, d'autres juges, des juges de l'État, c'est-à-dire des juges qui jugent l'État, mais eux aussi qui font partie de l'État, les bien nommés conseillers d'État, mais eux aussi les membres du Conseil constitutionnel, se sont très progressivement et de plus en plus nettement éloignés de l'impératif catégorique des droits et libertés et de la défense de la démocratie, sans que cela suscite dans l'opinion publique de vives critiques. Il n'en va pas de même dans le monde juridique où de plus en plus de praticiens comme de professeurs s'émeuvent régulièrement de ce tournant. Comment comprendre cette inquiétante évolution? Comment la caractériser et en prendre toute la mesure? La juriste Stéphanie Hennette Vaucher et le politiste Antoine Vaucher ont mené l'enquête. Ils sont cette semaine les invités de la suite dans les idées. Et c'est de justice toujours dont il sera question dans la deuxième partie de l'émission avec Bérénice Hamidi qui est professeure d'études théâtrales mais aussi metteuse en scène et qui viendra nous parler d'un dispositif, d'un spectacle, Notre procès qu'on pourra bientôt voir au Théâtre de la Cité Internationale à Paris, un spectacle dans lequel joue l'une des invitées de la première partie, Stéphanie Hennette Vaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre et donc vous co-signez avec Antoine Vaucher qui est politiste et directeur de recherche au CNRS, au CESP, à l'Université Paris 1, ce livre qui paraît aux éditions du Seuil, des juges bien trop sages, qui protège encore nos libertés. Alors, j'étais obligé de commencer par cette actualité... en particulier le verdict du procès Sarkozy, les critiques dont ce verdict a fait l'objet, parce que c'est compliqué de critiquer la justice, vous en êtes conscient, et vous pensez néanmoins que c'est très important de pouvoir la critiquer, mais pas n'importe comment. Vous le faites après un long travail d'enquête. Et puis par ailleurs, la justice qui vous intéresse, c'est une justice, je le soulignais dans l'introduction de l'émission, assez différente de celle qui a, en l'occurrence, condamné et Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. En quoi est-elle différente, Stéphanie Hennette Vaucher ?
Alors effectivement, elle est différente. Les juges dont on parle, ce n'est pas le juge judiciaire. Ce sont ces deux juges qui se prétendent et qui se disent, pas comme les autres, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil d'État, disons, son action de juge, c'est contrôler l'action administrative et du gouvernement. Et le Conseil constitutionnel, sa mission, c'est de contrôler l'action du législateur. Et c'est des juges qui sont pas comme les autres parce que ils ont un positionnement tout à fait singulier. Un positionnement tout à fait singulier parce que le Conseil d'État, comme son nom l'indique, il a en réalité deux fonctions, celle de juger l'action administrative et gouvernementale, mais aussi celle de conseiller l'État, c'est-à-dire qu'il intervient en donnant son avis, en examinant l'ensemble des textes dans leur version préparatoire dont l'action gouvernementale est faite. Et le Conseil constitutionnel, il a pas directement cette fonction de conseil, mais un peu comme le Conseil d'État est peuplé de membres issus historiquement de l'ENA qui sont du même tonneau que les élites de gouvernement, eh bien le Conseil constitutionnel a aussi cette spécificité un peu sociologique et institutionnelle qui est d'être peuplé de personnes qui ont eu des trajectoires politiques importantes. On se rappelle que jusqu'à récemment, il n'y avait pas moins de 3 premiers ministres qui siégeaient en même temps au Conseil constitutionnel.
Et donc, et que les présidents de la République, les anciens présidents de la République,
sont encore membres de droit du Conseil constitutionnel. Donc effectivement, ils ont un positionnement très singulier et on a voulu essayer de s'interroger sur l'impact de ce positionnement très singulier, de cette proximité institutionnelle et sociologique aux élites de gouvernement sur une mission qu'ils ont tous les deux et dont ils disent qu'elle est tout à fait importante, qui est d'être les garants, les protecteurs de nos droits et libertés fondamentaux. Et donc, effectivement, c'est ça l'enquête, c'est ça la question qu'on a voulu poser.
Alors une enquête qui mêle vos spécialités à l'un et l'autre, le droit et puis la science politique, pour essayer de mieux comprendre ce tournant, cette bascule. Afin de prendre peut-être la mesure du tournant, il faut commencer par rappeler, Antoine Vaucher, qu'on est passé par des années, et moi qui ai étudié le droit, je peux témoigner de ça, par des années de célébration des progrès en matière de protection des droits fondamentaux, des libertés publiques. En gros, entre les années 70 et le début des années 2000, il s'est produit un certain nombre de décisions, ont été produites un certain nombre de décisions, tant au Conseil d'État qu'au Conseil constitutionnel, qui ont élargi le socle de référence, le fait qu'on mette le préambule des constitutions antérieures, la Déclaration des droits de l'homme, dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, ou alors la possibilité aussi de saisir différemment ces instances. Enfin, bref, tout ça allait plutôt dans le bon sens, pour le dire rapidement. Peut-être il faut revenir un instant, mais je ne sais pas qui d'entre vous préfère le faire, Antoine Vaucher, revenir un instant sur ce moment dans lequel l'état de droit s'est renforcé incontestablement, indubitablement, dans la République française.
Oui, merci. Effectivement, je pense que même pour en prendre complètement la mesure de cette période, effectivement, qu'on appelle le moment état de droit, hein, qu'on situe grosso modo entre, disons, la sortie du gaullisme des débuts des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Et bon, peut-être on pourra reparler de ces bornes chronologiques qui sont assez importantes pour nous. Mais pour prendre complètement la mesure de ce moment, qui rétrospectivement apparaît comme un moment relativement clos, il faut voir aussi la manière dont ces deux cours, donc très spécifiques, elles siègent toutes deux au Palais Royal, sont quand même très liés à la définition de ce que c'est que la Ve République. Souvent, on place le Conseil d'État dans une histoire napoléonienne de 200 ans, mais en fait, c'est une institution qui s'est complètement réinventée tout contre la Ve République, et le Conseil constitutionnel est une institution née avec la Ve République, et toutes deux sont logées, en quelque sorte, dans le projet et dans la formule de la Ve République, qui est une formule qui tend à, à sécuriser le pouvoir de gouverner, ce que Nicolas Rousselier avait appelé la force de gouverner, et à la sécuriser par le droit.
Et dans un moment historique particulier, parce que c'est le contexte de la guerre d'Algérie qui voit naître la Ve République, mais qui voit naître aussi les premières décisions importantes de défense des droits à l'intérieur du Conseil d'État.
Alors effectivement, on a à ce moment-là, effectivement, des décisions, une décision, hein, notamment Canal de 1963, en plein cœur de la sortie de la guerre d'Algérie, des pleins pouvoirs du général de Gaulle, à la veille d'un référendum sur la réforme de la Constitution, 1962, pardon, évidemment, on a un arrêt par lequel ce monsieur Canal, qui était un des dirigeants de l'OAS, venait d'être condamné à mort par un tribunal d'exception créé par les pleins pouvoirs du général de Gaulle. Et le Conseil d'État, dans un arrêt qu'on peut dire un peu de rébellion, avait, à une voix près, en quelque sorte, donné la vie sauve à André Canal, qui, effectivement, en annulant et en faisant valoir le droit du procès, le droit à l'égalité, effectivement, et un appel. Voilà. Donc c'est très important, mais en réalité, très vite, immédiatement, ensuite, ce qui est frappant encore plus, c'est que face à cet arrêt de rébellion, on pourrait dire, le pouvoir gaulliste réforme le Conseil d'État, comme finalement chaque république ou chaque nouveau régime a réformé le Conseil d'État pour, en quelque sorte, le mettre en phase avec les nouveaux principes du régime. Et il s'agit justement de souligner le fait qu'il ne faut pas faire trop de droit. Il faut juger, mais administrer. Il faut adopter et intérioriser les impératifs de l'action publique. Et donc, pour cette raison, cette réforme de 63 oblige tout magistrat administratif du Conseil d'État à être à la fois juge et de siéger aussi dans les formations par lesquelles le Conseil d'État conseille le gouvernement, d'être à la fois donc juge et conseil. Et cette double identité, en fait, elle est pour nous, en fait, constitutive, sous la Ve République, de cette formule du juge administratif.
Alors, on va pas reprendre toute cette histoire, elle est longue, vous y consacrez des pages dans votre livre. Partons plutôt, Stéphanie Hennette-Vaucher, de la situation actuelle que vous qualifiez d'indifférence, indifférence de ces juges pour les libertés, pour la démocratie. Il y a même certains de vos collègues qui se demandent à quoi sert aujourd'hui le Conseil constitutionnel quand on regarde, pour prendre un exemple récent, la décision rendue à propos de la réforme des retraites en particulier, où on pourrait être encore plus contemporain en parlant de celle qui concerne la loi Duplomb. Ces décisions qui traitent à la fois des procédures mais aussi du fond et dans lesquelles finalement, les juges ne recourent pas à tous les arguments qui pourraient puiser dans beaucoup de textes de façon à mieux protéger nos libertés.
Oui, effectivement, une des formules qu'on utilise dans le livre, c'est cette idée que les juges, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, sont devenus progressivement indifférents à la cause des libertés. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est évidemment pas qu'ils ne se préoccupent pas des droits et libertés, qu'ils n'en parlent pas. En réalité, ils en parlent même abondamment. Mais ce qu'on essaye de saisir, c'est que en réalité, ils ne font pas la différence entre la protection ou l'autorité due aux droits et libertés, dont les premiers mots de la Constitution nous disent que le peuple français proclame solennellement son attachement à la Déclaration de 1789, au préambule de 46 et à la Charte de l'environnement. Donc, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que ce sont les textes qui sont véritablement au frontispice, qui doivent déterminer tout le reste. Et donc, notre idée, c'est que voilà, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ne font pas tellement la différence entre ces droits et libertés, solennellement proclamés, d'une part, et toute une série d'autres intérêts publics qu'ils incorporent dans les multiples opérations de raisonnement qui sont les leurs. Alors, ces intérêts publics, ça peut être l'ordre public, ça peut être l'intérêt général pas davantage qualifié que cela, ça peut être l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, ça peut être toute une série d'autres impératifs. Et quand on ne fait pas la différence entre ceux des droits qui sont solennellement proclamés dans la Constitution et ces autres intérêts généraux, ben, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on ravale les libertés au rang d'un des éléments d'une opération de pondération dont ces juges ont la seule maîtrise. Et vous preniez l'exemple de la loi Duplomb, il est effectivement tout à fait emblématique parce que on a dit au cœur de l'été que le Conseil constitutionnel avait en tant que contre-pouvoir censuré l'action du législateur. Une des dispositions qui était particulièrement litigieuse était celle qui permettait la réintroduction des néonicotinoïdes. Et ce qui est très frappant quand on lit la décision du Conseil constitutionnel, c'est que certes, il a censuré le législateur, mais exactement sur ce que ma collègue Véronique Champeil-Desplat appelle un repli technicien, c'est-à-dire il n'a pas censuré le principe de la réintroduction des néonicotinoïdes. Il a simplement dit que la réintroduction était trop vaste, l'exception était insuffisamment précisément définie. Et il a même explicitement souligné que le législateur, en réintroduisant ces pesticides, poursuivait une finalité de protection des filières agricoles et de lutte contre les distorsions de concurrence, lesquelles finalités étaient des finalités d'intérêt général qu'il convenait de mettre en balance avec le droit à l'environnement sain proclamé par l'article 1er de la Charte. Donc on voit bien comment cette opération de pondération est aussi une opération de ravalement de l'autorité des libertés.
Mise en balance, dites-vous, Antoine Vaucher, mise en balance entre ce qui relève des principes, de quelque chose qui devrait être au fond liminaire, qui devrait être premier dans une forme de hiérarchie des normes, et puis ce qui relève des politiques publiques. Au fond, c'est pas très surprenant, on est dans une situation aujourd'hui de crise politique assez forte, et on voit se mêler les questions de principe, à savoir, faut-il respecter la règle du jeu dans un régime parlementaire et appeler le Premier ministre parmi le camp qui a obtenu la majorité, ou faut-il trouver une solution pour le budget ou remettre sur le métier la question de la réforme des retraites. Et on voit que tout ça est complètement entremêlé avec une impossibilité, une difficulté à vraiment faire la part des choses entre ce qui relève de la solution à la crise institutionnelle, d'un côté, et puis ce qui relève de la gestion des politiques publiques d'autre part. J'ai l'impression avec ce qui se passe en ce moment qu'au fond, c'est la même chose que ce que vous décrivez, c'est-à-dire que tout d'un coup, les intérêts qui sont en jeu dans des politiques publiques viennent interférer avec des choses qui relèvent des grands principes et qui ne devraient pas être traitées sur le même plan, Antoine Vaucher.
Oui, je pense qu'effectivement, la manière, la conception du juge qui a cours au Palais Royal, justement, c'est une conception d'un juge qui accompagne l'action du gouvernement, qui se loge en quelque sorte à l'intérieur des politiques publiques et à l'intérieur des objectifs même que s'assigne les politiques publiques, qui ne cherche pas nécessairement d'ailleurs à penser d'autres voies alternatives, enfin, ou de juger au regard d'autres voies alternatives, par exemple, quand on engage une expropriation ou des grands projets d'infrastructure. Donc se loger vraiment à l'intérieur des politiques publiques et mettre finalement en balance toutes sortes d'intérêts généraux, sachant que dans la conception, c'est ressorti très fortement dans notre travail, dans cette recherche, dans la conception qu'a le Conseil d'État de l'intérêt général, les droits et les libertés ne font pas partie de l'intérêt général, il y a une vraie dichotomie entre l'intérêt général, les figures de l'intérêt général, ordre public de sécurité, ordre public concurrentiel, intérêt public, etc., et les libertés, les droits et libertés qui sont considérés en quelque sorte comme un irritant de l'action publique, quelque chose qui relève de droits et libertés individuelles.
Des contraintes, au fond, qui pèsent sur l'action publique.
Des contraintes, effectivement, avec lesquelles il faut jouer, mais qui, évidemment, dans la balance, finissent par peser relativement peu. Voilà, un bon exemple, c'est la manière dont les droits écologiques sont traités, en quelque sorte. Alors, on consacre un chapitre à ça, et par certains aspects, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont eu des prises de position, des décisions finalement d'un point de vue des principes qui sont assez fortes effectivement, mais ce qui est frappant, c'est qu'on continue à fonctionner par exemple dans le cas du Conseil d'État avec ce qu'on appelle une vieille théorie, que ceux qui ont fait du droit peut-être se souviennent et s'en souviennent peut-être, cette théorie du bilan, c'est-à-dire au moment de faire une expropriation, une déclaration d'utilité publique pour un grand projet d'infrastructure, on va pas seulement juger des droits et du droit même, on va mettre en balance, et le juge administratif pour évaluer la déclaration d'utilité publique, des expropriations privées par exemple, va mettre en balance justement toute une série d'intérêts financiers, de politiques publiques, etc.
De coûts avantages,
avec l'idée justement qu'il ne faut pas trop s'arrêter au droit, il ne faut pas être trop juridiste. C'est quand même un des contre-modèles du Conseil d'État, justement depuis la réforme de 63, ne pas être trop juridiste et donc justement avoir une approche de conciliation, de mise en balance pour que finalement accompagner la bonne marche de l'administration.
Stéphanie Hennette-Vaucher, c'est la naissance au fond de ce qu'on a appelé le droit public économique dans les années 70 qui va permettre une plus grande porosité entre le secteur public et le secteur privé aussi, qui va rendre tout cela possible avec la prise en compte d'intérêts de plus en plus divers à l'intérieur du droit public en fait.
Oui, bah c'est vrai que toutes les transformations de l'action économique de l'État, c'est-à-dire la fin des grands monopoles, qui a accompagné bien sûr le mouvement européen, a été un moment de déstabilisation pour le droit public et singulièrement pour le droit administratif, qui était construit sur des catégories exorbitantes du droit commun, qui avait été taillé à la juste mesure de l'État, des services publics, de l'État.
Surtout en France.
Et effectivement, il y a eu une déstabilisation très grande. Et dans ce chapitre, et ça fait écho à d'autres travaux d'Antoine, dans ce chapitre, on voit bien que il y a eu véritablement un basculement, une mue, une transformation à laquelle le Conseil d'État a complètement pris sa part. Pour faire évoluer ces catégories centrales du droit public, mais tu veux peut-être compléter.
Antoine Vaucher.
Ouais, je peux. Oui, enfin, de prolonger, en fait, oui, c'est-à-dire que le Conseil d'État s'est trouvé au cœur de tous les réglages juridiques et politiques qui ont accompagné l'entrée de la France dans le marché unique, et notamment tous les grands chantiers de libéralisation et de privatisation qui ont supposé à la fois beaucoup de lois, beaucoup de décrets, toute une doctrine. Et toute une série de décisions jurisprudentielles. Et tout le long de cette chaîne, en quelque sorte, du droit, depuis les avis, depuis les doctrines, les rapports du Conseil d'État, depuis l'écriture des projets de loi, etc., les membres du Conseil d'État sont extrêmement présents, ont, en quelque sorte, contribué à réécrire complètement les catégories du droit administratif. Et dans ces réglages, il a fallu redonner des places à chacun. Et un des éléments forts, on l'évoque à travers la jurisprudence, pour le coup, du Conseil constitutionnel, mais aussi, on pourrait le dire, du Conseil d'État, c'est le renforcement de ce qu'on a appelé les droits de l'homme des entreprises. C'est-à-dire l'idée que les entreprises ont des droits fondamentaux dans ces nouveaux réglages publics-privés, qu'elles ont droit à une vie privée, qu'elles bénéficient d'un secret, des affaires, etc. Autant d'éléments qui, évidemment, remettent en cause, enfin, contribuent à dévitaliser ce qu'est le programme fort des droits et des libertés, qui est évidemment essentiellement, historiquement, attaché aux personnes et à une logique émancipatrice.
En fait, tout l'intérêt vraiment de cette enquête passionnante, c'est que vous montrez comment ce programme fort des droits et libertés, qui a eu son moment, a été attaqué, remis en cause, non pas n'importe comment, non pas à la faveur de décisions qui partent dans tous les sens, mais pour se conformer à d'autres programmes. Des programmes de mise en conformité avec de nouveaux modes de régulation, et notamment liés à la construction de l'Union européenne, mais aussi des programmes qui touchent à l'environnement, à l'écologie. Stéphanie Hennette-Vaucher, vous en disiez un mot à l'instant. Mais aussi, c'est là que c'est plus compliqué, parce qu'on pourra en faire une lecture très anti-européenne, des programmes qui touchent à la souveraineté, au souverainisme, en fait, Stéphanie Hennette.
Oui, c'est un chapitre effectivement auquel on tenait beaucoup, parce que il s'agit en fait de regarder quel est le positionnement, la contribution du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel vis-à-vis du droit international. Et c'est évidemment un sujet très important pour qui s'intéresse aux droits et libertés, parce que nous vivons, à la différence de nombreuses autres démocraties avec lesquelles on aime à se comparer, nous on vit dans un ordre juridique où la Constitution est très peu bavarde sur les droits et libertés fondamentaux. Donc, pour nous, le droit international et européen a une importance d'autant plus grande qu'on n'a pas beaucoup de ressources nationales. Et ce qui nous a frappé, c'est que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont bien sûr consenti des évolutions très importantes, et notamment pour ce qui est du Conseil d'État, à partir de la fin des années 80, il accepte l'invocabilité, en principe, du droit international de manière pleine et entière. Mais quand on regarde véritablement, là encore, dans le détail, qu'on prend vraiment le droit au sérieux, on se rend compte que, nonobstant cette position de principe, il déploie toute une série d'instruments de raisonnement qui lui permettent, au cas par cas, de dire « Oui, mais cette convention internationale-là, par exemple, elle ne vise pas directement les individus, elle crée seulement des obligations entre les États, elle n'a pas d'effet direct. » Ou alors, ce droit-là, le droit au procès équitable, eh bien, il ne trouve pas à s'appliquer aux procédures qui sont suivies devant telle instance, qui n'est pas vraiment une juridiction au sens plein. Bref, il y a toute une série de raisonnements techniques qui permettent au Conseil d'État, et plus encore au Conseil constitutionnel qui est assez fermé vis-à-vis du droit international, de tenir un peu en échec le droit international. Et pourtant, dans le même temps, le Conseil d'État en particulier, et le Conseil d'État, c'est-à-dire les membres qui le composent, est activement engagé dans une sorte de travail diplomatique pour maintenir le rang de la France à l'échelle internationale, ce qui passe aussi par le fait de s'assurer que des membres du Conseil d'État occupent des fonctions tout à fait stratégique, importante, au sein de l'Union européenne, dans le cadre du Conseil de l'Europe, à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et donc, voilà, il nous a semblé que la dualité de ces fonctions, c'est-à-dire, comme juge, je protège quand même le droit national contre des interférences trop grandes du droit international, et comme gouvernant, d'une certaine manière, je maintiens les positions qui permettent à la France d'affirmer son autorité sur la scène internationale, c'était assez emblématique de cette ambivalence de rôle qu'on essaye de dévoiler.
Ambivalence que vous mettez bien en évidence, Sophie, avec la structuration du livre, parce que d'un côté, vous avez ces juges de l'État, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, qui, au fond, rendent possible un certain nombre de politiques publiques, qu'il s'agisse de régulation, qu'il s'agisse de sécurité, on n'en a pas parlé, ou qu'il s'agisse de souveraineté. Et puis, d'un autre côté, vous avez la manière dont ces juges de l'État doivent faire face à des demandes de la société, des demandes qui concernent les droits, qui concernent l'écologie, et qui concerne les associations. Et vous revenez sur chacun de ces trois temps, au fond, pour voir comment, alors même que ces juges, on pourrait penser qu'ils sont les alliés des demandes de droit, en fait, vont mettre en œuvre des manières de repousser ces demandes de droit. Sur la question de l'égalité en particulier, c'est très flagrant, Antoine Vaucher.
Oui, effectivement, dans ce travail, je dirais, gouvernemental au sens large, hein, qu'on identifie dans le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, ils sont amenés, en quelque sorte, à juger des demandes émergentes de droits. Des nouveaux droits, en quelque sorte, de la dynamique des droits qui est propre évidemment à la société. Et voilà, les ayant campés, comme on l'a fait dans les premiers chapitres, comme justement des réformateurs enrôlés dans les grands programmes de réforme de l'État, donc le marché unique, le programme de sécurité qui émerge à partir du milieu des années 90, et puis le repositionnement de l'État dans la globalisation, comme on vient de l'évoquer avec la souveraineté, évidemment, pris dans ces grands programmes réformateurs. Évidemment, et engagé du coup d'une certaine manière à plein titre dans ce travail gouvernemental, encore une fois attendu au sens large, eh bien ces élites de gouvernement que sont voilà les conseillers d'État et les membres du Conseil et les conseillers constitutionnels, évidemment sont moins à l'écoute des droits émergents, ou auront encore une fois à l'esprit avant tout le fait de garantir cette force de gouverner, le fait de la protéger des incursions du droit international ou des incursions excessives du droit international, mais on pourrait dire de même des revendications jugées excessives de la société civile, voire même des nouveaux paradigmes des droits de l'homme qui émergent, comme par exemple dans le domaine de l'égalité, tout ce qui a trait à la lutte contre les discriminations, aux non-discriminations, qui est aujourd'hui une jurisprudence très développée à l'étranger, qui donne des outils, Stéphanie en parlerait beaucoup mieux que moi, des outils assez fins pour justement aujourd'hui attaquer... poursuivre en quelque sorte le programme de l'égalité, mais qui ont du mal parce que justement ces conseillers d'État sont dans un tête-à-tête en quelque sorte avec le gouvernement, beaucoup plus qu'avec le monde de la société civile, qui ont beaucoup plus de mal, bien sûr, à se frayer un chemin dans la jurisprudence.
On pourrait rentrer dans le détail de chacune de ces questions. C'est absolument passionnant, mais l'heure tourne et il est question aussi dans votre livre de trouver des solutions à tout ça, de faire en sorte que cette indifférence cesse, que ces juges de l'État reprennent leur rôle de défense de la démocratie en particulier, parce qu'on est dans un contexte particulier. Et il vous semble que les mesures qui sont depuis longtemps avancées, qui font par exemple qu'on pourrait remédier au fait que ces juges ne sont pas des juges comme les autres, qui ne sont pas suffisamment indépendants. D'ailleurs, la justice européenne ne les considère pas comme des magistrats, mais que ces juges deviennent de véritables magistrats avec une indépendance, comme c'est le cas pour leurs collègues de la justice judiciaire. Mais ça vous semble à la fois nécessaire, important, mais très insuffisant, parce qu'au fond, il y a là un piège. Il y a un mot aujourd'hui qui est utilisé face à des attaques qui viennent de l'extrême droite, c'est le mot d'impartialité. Ce mot, on nous demande de l'utiliser pour faire rempart. Or, c'est un mot dangereux, Stéphanie Hennette-Vaucher, parce que il y a une théorie des apparences de l'impartialité en droit, mais on pourrait dire qu'elle vaut pour le journalisme aussi. Cette façon de montrer comment on fait bien son travail en mettant en balance précisément des choses, là où on devrait peut-être attendre du juge et du journaliste qu'ils s'engagent pour défendre la démocratie et pour défendre les droits.
Oui, ça c'est effectivement un point qui nous tient beaucoup à cœur. C'est effectivement de souligner que même quand on s'intéresse au droit, on a besoin d'autres outils que strictement les outils juridiques, précisément si la question en jeu, c'est celle de la protection de nos droits et, à vrai dire, effectivement, la centralité, de la compréhension du fait qu'il y a guerre de démocratie sans une protection robuste de ces droits. Et effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir une discussion, et il y a d'ailleurs une discussion existante, très riche, très juridique, sur qu'est-ce qu'on fait de ces juges pas comme les autres, comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que finalement, ça suffirait pas de les rendre indépendants, de les rendre impartiaux, etc. Mais, je crois que cette discussion a tout à fait son intérêt, mais effectivement il y a quelque chose comme un peu un piège d'une réflexion purement juridique sur ces questions, et vous évoquiez en particulier la notion d'impartialité. C'est vrai que on voit bien par exemple la manière dont des groupes d'extrême droite depuis plusieurs années, et je pense en particulier au European Center for Law and Justice, qui est une organisation conservatrice qui fait du contentieux stratégique devant la Cour européenne des droits de l'homme et qui essaye de mettre en cause les juges de la Cour européenne des droits de l'homme en disant « Vous voyez bien qu'ils ne sont pas impartiaux, puisque pour nombre d'entre eux, ils ont, par le passé, eu des carrières de spécialistes de droits humains. » Et donc, en fait, on peut tout renverser sur la tête en disant, finalement, un juge dans une cour spécialisée sur les droits humains qui vient d'un profil de droits humains n'est pas impartial parce qu'en fait, il est pour les droits humains. Et donc, effectivement, il y a une sorte de piège qui se joue là. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de dire que le vrai enjeu, au-delà, c'est précisément ces batailles de l'intérêt général, d'avoir une conception de l'intérêt général qui n'est pas définie en tête-à-tête entre ces instances et le gouvernement, mais qui est plurielle et qui, précisément, s'écrit aussi en lien avec les aspirations et les revendications de la société civile.
Antoine Vaucher, sur cette manière dont on peut espérer faire en sorte que ces juges soient moins indifférents qu'ils ne l'ont été au cours des 20-25 dernières années ?
Il y a beaucoup de... Bon, c'est vrai que c'est une conclusion et on avance plus modestement sur ce terrain-là, mais c'est vrai que on peut réfléchir à toute une série de manières par lesquelles ces juges administratifs, enfin justement le Conseil d'État qui se considère comme un grand corps pourrait effectivement prendre davantage au sérieux les droits et les libertés. Vous avez évoqué en ouverture le rôle des juges dans différentes décisions sur le procès des assistants parlementaires de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. Voilà, ce qui est frappant, c'est que du côté des juges judiciaires, je ne prends pas en modèle, là n'est pas la question, mais il y a une façon de prendre au sérieux cette question de la démocratie. La raison pour laquelle Marine Le Pen a fait l'objet d'une exécution immédiate de sa peine tient au fait que le magistrat a insisté sur le fait que ça relevait d'un ordre, que la décision relevait de l'ordre public démocratique, et c'est que cela même justifiait le fait que, n'ayant pas reconnu les faits, étant futur candidat de probable à l'élection présidentielle, il était dangereux démocratiquement de laisser candidater une telle personne, voilà. Donc là, on voit bien comment ça peut faire de l'ordre, enfin comment ça relève de l'ordre public, c'est-à-dire d'un principe supérieur impératif, c'est le sens en droit public, qui peut effectivement être une façon ensuite d'interpréter le droit, puisqu'après tout, effectivement, comme l'indiquait Stéphanie au préambule de notre Constitution, en son premier article, eh bien effectivement, il y a une définition de l'intérêt général qui est celle de l'attachement du peuple français aux droits et aux libertés.
Merci beaucoup Antoine Vaucher, Stéphanie Hennette Vaucher, des juges bien trop sages, qui protègent encore nos libertés, c'est le titre de ce livre passionnant. On continue de parler de justice dans la deuxième partie de l'émission avec Bérénice Hamidi qui nous rejoint. C'est après un extrait du premier album d'un super groupe, Boo Boos, un groupe formé de E, le leader de Eels, Mark Everett, et de Katie Mathison qui officie habituellement dans 79.5. Ce morceau s'appelle That That's not a thing.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Good morning, my darling. How did you sleep? I missed you all night. You know I'm in deep. There was an earthquake, a small one. But there may come worse. So bad that you wake up. Life feels cursed. Rise to the challenges each new day brings. 'Cause you and I are going separate ways. Well, that's not a thing.
It's night time now, honey. My day has been real hard, but I stayed cool, just like you. Thank you.
me. There's nothing they can do to make me stop being on Team U. Cut my muscles, saw my bones. There ain't no way I'm leaving you alone.
Not if I have a say.
We'll rise to the challenges each new day brings. 'Cause you and I go in separate ways. Well, that's not a thing. That's not a thing.
Et parce qu'on a de la suite dans les idées ici, on poursuit nos réflexions sur la justice après une émission consacrée au travail de l'équipe Prométhée à propos du procès V13, de ses dispositifs de jugement, de leur captation, notamment avec Sylvie Lindeperge. Récemment, on continue de nous intéresser à ces dispositifs de procès, de jugement qu'on voit sollicités, mobilisés dans différents types d'initiatives. On a vu récemment aussi un procès Bolloré. Par exemple, donc des procès qui ne sont pas des procès officiels, des procès organisés par la justice, mais la forme procès est une forme qui peut être investie par les militants, par les activistes, mais aussi par les artistes. C'est votre cas, Bérénice Hamidi. Vous êtes à la fois universitaire, spécialiste en études théâtrales et professeur à Lyon, mais vous êtes également la metteuse en scène avec Gaëlle Marty d'un spectacle, Notre procès, qui a déjà connu quelques représentations, qu'on pourra voir du 24 au 29 novembre au Théâtre de la Cité Internationale. Parenthèse, j'en profite pour indiquer que c'est une chercheuse qui vient de prendre la direction de ce théâtre, Frédéric Haït-Touati. Et donc, ce spectacle, vous l'avez conçu dans cette forme procès pour poser des questions qui vous intéressent depuis longtemps, la manière dont le théâtre s'empare de questions de société, la manière aussi dont ces questions de société peuvent être mise en scène dans des sphères de justice ou autres. Qu'est-ce qui vous a conduit à franchir le pas et à aller sur scène, au fond, ou en tous les cas à mettre des gens sur scène pour penser ces questions, Bérénice Hamidi?
Bonjour. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, c'est une difficulté de plus en plus grande à séparer alors mon être artiste et mon être chercheuse. Et puis avec Gaëlle, en fait, c'est vrai que c'est né d'un projet de recherche, mais qui lui-même ne séparait plus non plus complètement les chercheuses des femmes, en l'occurrence, et puis des citoyennes, des parents, des enseignantes que nous sommes aussi. Et c'est vrai que, comme plein de gens, on s'est pris un peu la vague MeToo en pleine figure en 2017-2018, et que ça nous a amené à toute une série de questionnements intimes, mais aussi intellectuels, et que donc après, on a fait comme quand une question nous intéresse, nous trouble, questionné par quelque chose, on a fait de la recherche, donc on a fait un colloque, on a fait des publications. Mais on a eu aussi le besoin d'avoir un questionnement un peu plus incarné, d'une part, de sur ces sujets de violences sexistes et sexuelles. Et puis, c'est vrai qu'un des résultats du gros programme de recherche RIPER qu'on a mené pendant plusieurs années, poussé vraiment du côté de la justice et d'une injonction qu'on entend très souvent, hein, particulièrement dans ces affaires, à laisser la justice faire son travail, ce qui pose question, là aussi, notamment quand on sait qu'il y a 1% des viols qui aboutissent à une condamnation. Donc on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de cette injonction et qu'elle a même quelque chose d'assez scandaleux au regard du fait qu'elle vient comme ça refaire taire les victimes et les plaignantes. Et puis qu'il y a un petit côté circulé, il n'y a rien à voir. Et donc on était un peu fâchés, avec notre institution judiciaire sur ces questions particulièrement. Et en même temps, à la fois on continue à y croire. Alors je l'ai pas dit, mais Gaëlle Marty, qui co-met en scène avec moi, est professeure de droit, comme Stéphanie. Donc à la fois on a envie de croire au droit, on a envie de croire à la justice. On pense aussi qu'on peut pas vraiment, y a pas trop les moyens de faire autrement pour l'instant. On n'a pas encore trouvé mieux, particulièrement sur ces sujets-là où la société est pas plus égalitaire que l'institution judiciaire. Donc ça, c'est la première grosse raison, je dirais. Et puis la deuxième raison, alors qui m'est effectivement plus personnelle, c'est que moi, je travaille depuis hyper longtemps sur... Et puis j'aime aussi, comme spectatrice, comme metteuse en scène aussi, toutes les formes documentaires. Et particulièrement, il y a une très longue histoire des pièces procès et de cette idée que, en fait, le théâtre, c'est une façon... Enfin, c'est une scène... Ça a pu fonctionner au cours de l'histoire. C'était la grande idée de Brecht, de Piscator. Ça peut fonctionner comme une scène de justice alternative. Et vraiment comme un endroit qui à la fois fait advenir, mais aussi manifeste et met en question ce qui a été évoqué dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire la question de du lien entre les institutions juridiques et judiciaires et puis cet enjeu démocratique. Quel projet de société on veut mener et quelles valeurs aussi on défend. Et la scène du procès fictif, c'est une scène, en fait, de conflit de valeurs.
On l'a vu dans des tas d'autres exemples, au cinéma en particulier. Je pense au très très beau film d'Abderrahmane Sissako, Bamako, qui organisait le procès d'État, d'institutions internationales. Alors vous, quel est ce cas que vous avez saisi, inventé, un cas fictif, mais qui s'appuie quand même sur des éléments assez réels, assez affaire, contemporains.
Tout à fait, oui. Alors, contemporains et pas que.
Et pas que,
Parce que effectivement, c'est une affaire, alors qui en plus, c'est anecdotique et ça ne l'est pas, est née au moment, l'année de MeToo, en 2017-2018, quand a été mis au concours de l'agrégation, alors un vieux poème, c'est pour ça que je dis contemporain et pas que, un poème du XVIIIe siècle d'André Chénier. Donc c'était toute son œuvre qui avait été mise au programme, mais il y a un poème en particulier qui a fait problème, qui est l'Oaristis, et qui est un poème, en fait, qui raconte une scène d'amour, donc c'est aussi une forme très théâtrale, même si c'est un poème, entre un berger et une bergère. Sauf que, justement, des candidats et candidates au concours ont posé une question en apparence assez humble, mais en fait qui ouvrait vraiment tout un volet de discussion énorme, au jury, en demandant s'ils seraient sanctionnés, si dans leurs explications de texte au moment du concours, ils qualifiaient la scène de viol et pas de scène de séduction canonique et d'idylle. Ce qui était la convention d'interprétation qui prévalait jusque-là. Et donc, parce que c'était une controverse qui impliquait un concours de l'enseignement public, parce qu'il y avait aussi des universitaires qui étaient engagés des deux côtés pour défendre les deux positions, ça a donné une très bonne matière dense. Alors, ça a aussi été une controverse médiatique, enfin une polémique médiatique, parce que les médias d'extrême droite s'en sont emparés pour crier à la cancel culture.
Mais c'était une vraie controverse par ailleurs, c'est ça qui
Mais
vous
voilà,
intéressait.
Oui, ce qui nous a intéressé, c'était que c'était une vraie controverse, et puis c'est aussi que c'était une controverse a une apparence de controverse un peu lointaine, parce que c'est un poème en alexandrin du XVIIIe siècle, c'est un berger et une bergère de pacotille, enfin voilà, on est un peu dans les conventions de la pastorale, donc après on est un petit peu loin, et ça nous intéressait parce que c'est quand même des sujets sur lesquels les esprits s'échauffent vite, et que voilà...
Ça mettait un peu de distance.
Voilà, ça mettait un petit peu de distance, et en même temps, en poupée gigogne, ça permet d'ouvrir plein de débats qui sont toujours hyper brûlant aujourd'hui, à savoir d'où nous vient cette croyance encore trop partagée que on pense que quand une femme dit non, elle pense oui. En fait, le poème ne parle que de ça, en fait, de cette croyance. La question du consentement, mais aussi la question de la responsabilité des œuvres dans la perpétuation de la culture du viol, mais aussi est-ce qu'on peut juger des œuvres du passé avec les critères d'aujourd'hui. Voilà, il y avait comme ça un déploiement de questions, et puis vraiment aussi, oui, comment on définit le consentement et le non-consentement. Et puis aussi, énorme question, comment est-ce qu'on arbitre, on parlait de conflit de valeurs, comment on arbitre entre deux valeurs très importantes qui sont la liberté d'expression et plus spécifiquement la liberté de création et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui sont deux valeurs a priori tout aussi importantes, mais dont on voit qu'elles rentrent en frottement.
Stéphanie et Ned Vaucher, comment vous êtes retrouvés sur la scène de ce spectacle? C'est une première, je crois.
Oui, c'est un peu un hasard de rencontre universitaire et voilà, j'avais eu l'occasion d'intervenir justement au colloque qui a précédé la pièce qui avait été pilotée par Gaël Marty et Bérénice Hamidi. C'est une aventure amusante, mais surtout très intéressante. Je voudrais juste vraiment souligner que moi, ce qui m'a frappé dans ce projet, c'est la très grande intelligence de la manière dont Bérénice Hamidi et Gaël Marty s'emparent de la forme juridique, parce que c'est une forme qui, je crois, se prête particulièrement bien à montrer la complexité des questions et la pluralité en fait des réponses qu'on peut formuler. C'est-à-dire que la pièce n'assène aucune vérité, elle repose véritablement sur le fait d'assumer la complexité entre les époques, les questions. Et je crois que voilà la version du procès où chacun peut exprimer un point de vue et où il y a véritablement la place pour le débat et l'échange d'arguments, produit, je crois, sur cette question spécifique, un effet vraiment intéressant.
Bérénice Hamidi, vous avez donc choisi de proposer à des spécialistes, en l'occurrence des universitaires, d'être sur scène, des gens qui sont familiers avec cette forme juridique. Mais vous avez aussi laissé une place, comme ça se fait dans certaines formes de justice, au public, en fait, en choisissant d'avoir des jurés.
Tout à fait, des jurés qui sont issus de l'Assemblée des spectateurs et spectatrices. Oui, ben c'est vraiment lié à cette envie et ce besoin de faire se frotter, voilà, tout comme on a envie d'avoir un rapport un peu de confrontation avec les institutions judiciaires existantes, un enjeu aussi d'expérimentation sur les questions de VSS. Il y a des cours expérimentales qui se créent, donc on avait envie d'être un petit peu dans ce rapport-là. Et puis, ben effectivement, comme disait Stéphanie, l'enjeu c'était pas que tout soit joué d'avance, mais même à la fois pour nous, parce que c'est aussi un espace-temps de réflexion et de confrontation avec nous-mêmes, avec différentes valeurs qu'on défend à l'intérieur de nous, pas simplement les uns par rapport aux autres. Voilà, donc il y avait tout ce projet-là. Et puis, l'enjeu qu'il y ait des personnes qui participent, c'est parce que... Alors, on a voulu qu'il y ait des... D'abord qu'il y ait ces paroles savantes, mais qui se confrontent, parce que il y a des il y a deux comédiennes professionnelles qui jouent l'accusé et le plaignant. Ça on en parlera peut-être, ce qui est le poète lui-même qui revient d'entre les morts défendre sa réputation et son nom et son œuvre. Donc ça c'est il est joué par un comédien professionnel. Et puis part eux, il y a des gens qui sont là au titre de leur expertise dans la vie réelle. Donc, il y a effectivement des professeurs de droit comme Stéphanie, mais qu'on a choisi parce que c'est des personnes qui portent aussi des convictions et qui sont dans un rapport, pas de confrontation, mais en tout cas de dialogue ferme avec le politique, avec le droit et les institutions actuelles. Et puis, il y a aussi des avocates féministes comme Catherine Lemagresse, qui a porté aussi la discussion sur la réforme de la loi sur le consentement, des juristes, des magistrats aussi. Et puis deux expertes littéraires, Laure Murat et Hélène Merlin, qui ont vraiment participé, elles, très activement à cette querelle-là en particulier. Et donc, on a voulu faire se mêler toutes ces voix-là, mais aussi faire qu'elles se mêlent avec les voix des citoyennes et citoyens que nous sommes au sens large, et du public, et en l'occurrence du public de théâtre. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose qui nous semblait la plus nécessaire, en fait. On ne pouvait pas être dans quelque chose de fermé. Et c'est pour ça que c'est un spectacle, oui, mais c'est surtout en fait une expérience à vivre, parce qu'effectivement, on l'a vraiment pensé du point de vue dramaturgique comme un chemin de pensée interne, mais aussi un chemin émotionnel. On n'aura pas tous le même au même moment, selon les arguments.
Et chaque soir ou chaque jour de représentation, c'est différent.
Et chaque jour, voilà. Alors, c'est différent, notamment sur cette seconde partie qui est le moment du délibéré, qui est donc rendu en public. On entend et on voit délibérer des personnes donc issus du public. Et alors, la seule chose que je spoilerais, c'est le fait que, pour ceux qui ont un peu l'idée que, oui, mais bon, on est entre gens de bonne compagnie, on a tous le même avis, on est tous raccord sur ce sujet-là, la réponse est non, pas du tout. Et donc, effectivement, selon les soirs, y a des... Alors, c'est plus ou moins tendu entre les jurés, mais aussi dans la salle. Et d'ailleurs, ceux qui incarnent les juges ont à gérer beaucoup d'affect aussi, ce qui est le cas notamment de Stéphanie, qui est la juge, la présidente de la cour. Mais c'était vraiment important et c'est aussi pour ça qu'il y a une application aussi pour pouvoir voter après et on veille à ce qu'il y ait toujours un temps de discussion. Il y a aussi avec le public et puis il y a aussi tout un volet d'action culturelle auprès de jeunes notamment, mais aussi de personnes de différentes générations et ça nous semble vraiment très important sur ces sujets parce que c'est notre affaire à tous. Voilà, d'où le titre d'ailleurs, Notre procès.
Merci beaucoup, Bérénice Hamidi. Donc, spectacle que vous co-signez avec Gaël Marty, avec la participation d'acteurs professionnels, de professionnels tout court, comme Stéphanie Hennette-Vaucher et d'autres, et puis du public. Donc, les prochaines représentations à partir du 24 novembre au Théâtre de la Cité Internationale. On trouve un lien vers la page sur le site du théâtre vers ce spectacle. Merci à vous trois.
France Culture. La suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Une rubrique actualité pour terminer cette émission consacrée à une revue, un numéro de revue, le numéro 149 de la revue Politics, revue des sciences sociales du politique. Un numéro qui tombe dans une certaine actualité, même s'il est nourri principalement de situations un petit peu historiques, plus ou moins anciennes, selon les articles, puisque ce numéro est titré « Désordre budgétaire » avec des parenthèses autour de « D », donc on a bien conscience qu'il s'agit de comprendre cette notion de l'ordre budgétaire, la manière dont elle a pu être remise en cause à travers des politiques publiques en particulier. Thomas Elie, bonjour, vous êtes politiste, bonjour. Vous avez co-coordonné ce numéro avec votre collègue Clémence Cardon-Quin. Et qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser? J'imagine que ce n'est pas encore le fait qu'on aurait un budget difficile, voire pas de budget, puisqu'un numéro comme celui-là, ça se lance plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait nous prêter la puissance intellectuelle d'avoir anticipé la situation contemporaine, mais pas du tout comme souvent. Ce numéro est le fruit d'un séminaire au long cours qui a duré 4 ans, que j'ai co-animé avec Clémence Cardon-Quin et qui lui-même s'inscrit dans une histoire longue de séminaires portés par l'Institut de la gestion publique et le développement économique dans le sillage des travaux de Philippe Bezès, Florence Descamps, Sébastien Cotte, avec pour mot commun quand même la notion d'interdisciplinarité. Et ça, c'est pour nous, c'était fondamental, puisque le saisir le fait budgétaire implique nécessairement ce croisement de regards disciplinaires avec un coût d'entrée très élevé. Et la revue Politics, comme revue sciences sociales du politique, était vraiment un idéal pour nous que nous sommes très contents d'avoir atteint, même si évidemment il n'y a pas toutes les communications du séminaire. Et on est reparti effectivement du concept d'Alexandre Siné, hein, de l'ordre budgétaire, qui est un concept et d'activité régulatrice par les finances publiques des politiques sectorielles. Et l'entrée qui nous intéressait vraiment, c'était de saisir les politiques sectorielles sur le long cours à partir de cet angle budgétaire. Et donc
Et dans leur variété, parce qu'en fait, ce qui frappe à la lecture de ce numéro, c'est que il n'y a pas quelque chose comme un ordre budgétaire qui viendrait s'appliquer de la même manière à tous les politiques publiques de manière inéluctable. En fait, on a un petit peu tous les cas de figure.
Exactement. Alors on a l'ordre au sens assez classique. De rites, d'institutions, de codes que décrit très bien Alexandre Siné dans son ouvrage, mais qui se décline effectivement un peu différemment en fonction des secteurs et des échelles aussi, puisqu'on a aussi un travail sur les collectivités locales et puis une vision un peu plus transverse du Grec Le Pont sur la notion de dépenses d'investissement. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est le fait que c'est un objet qui est à la fois très technique, avec un coût d'entrée très élevé, mais aussi très politique. Et donc, on a à la fois essayé de saisir des questions assez classiques de renforcement de la contrainte budgétaire, par exemple, donc avec une partie un peu archéologique sur la réforme des retraites, et là, il y a des résonances avec la période contemporaine sous Édouard Balladur, qui est première réforme assez contraignante, on peut dire.
1993.
Exactement, et l'article d'Idias Nagy qui revient un peu avant pour comprendre notamment par les archives, le rôle de la direction des oppositions, direction du budget, direction de la sécurité sociale.
Donc le rôle très important de la direction du budget dans cette réforme qu'on imagine plutôt a priori pilotée par les affaires sociales, par des ministères qui s'occupent des retraites.
Exactement, c'est ces points de tension nous qui nous intéressent, c'est-à-dire que il y a cette dimension de contrainte, il y a aussi les formes qu'on appelle d'informalité budgétaire avec Clémence, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas dans la la lecture des manuels classiques de finances publiques avec cet ordre très séquencé, très cadencé. Et en réalité, c'est par le travail d'archives qu'on peut isoler des formes de surarbitrage budgétaire.
Tout ne rentre pas dans les cases telles que on les a dans ces manuels.
Exactement. Et des rôles un peu parfois contre-intuitifs de la direction du budget elle-même. Par exemple, dans l'article de Clément sur le plan informatique pour tous, où il y a des intérêts, on va dire, industriels qui expliquent la relativement suétude de la direction.
On peut s'arrêter un moment sur cet article. L'idée de cet article, c'est de comprendre comment tout d'un coup, il est possible de trouver une manne financière qui permet de faire en sorte que les établissements scolaires s'équipent en matériel informatique.
Oui.
Alors que ce n'était pas prévu.
Oui. Alors, je parle sous le contrôle de Clément, si elle m'entend, mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est on voit bien la latitude et les représentations aussi de la direction du budget, et la latitude surtout dans les montages très complexes, hein, parfois très complexes, ready by, etc., mais qui permettent effectivement d'ajuster, parfois de déroger à des pratiques qu'on pense pouvoir anticiper, mais qui en fait doivent être décryptées par le jeu des archives en fonction des intérêts, des différents qui peuvent se poser. Et cet article est très intéressant parce qu'en fait il annonce, alors qu'il est le plan informatique pour tous, c'est les années 80, il a des résonances avec l'article d'Ulrich Le Pont sur qu'est-ce que c'est une bonne dépense d'investissement. Et là on a les ordres au pluriel du terme, c'est-à-dire au sens d'ordre symbolique, de représentation du monde très, très diverses, qui traversent l'ensemble de ces secteurs d'action publique.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors vous avez travaillé sur le domaine de la culture en particulier, où, en vous intéressant à deux moments atypiques. Alors, le budget de la culture, on le sait, c'est pas grand-chose du budget de l'État. Il y a des moments un peu magiques. Il y en a un qui est devenu mythique dans le secteur culturel, qui est l'après-élection de François Mitterrand, avec un budget 1982 en hausse considérable, Jack Lang étant ministre de la Culture. Et puis, un autre moment magique qui est lié au « quoi qu'il en coûte », à la pandémie, et qui a mis en œuvre des règles, notamment pour protéger un certain nombre de professionnels de la culture, qui étaient inespérés, en fait. Et c'est ces moments-là qui vous intéressent.
Oui, et c'est aussi dans la comparaison avec les travaux de Clémence. On voyait bien qu'on n'était pas du tout sur les mêmes masses budgétaires, et qu'il y avait aussi parfois des formes de régulation budgétaire, paradoxalement, plus élevées en proportion pour la culture que pour les autres ministères. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ces moments, essayer de voir quelles sont les conditions de possibilité de rupture de ce relativement petit ministère, hein, en termes budgétaires, et d'essayer de décrypter, alors à partir d'une hypothèse, la présidentialisation, parce qu'effectivement, pour rééquilibrer un peu les rapports de force, c'est important, mais en réalité, c'est pas nécessairement suffisant, et le cas du Covid que vous citez est assez intéressant, parce qu'il a un air de famille, donc c'est Roselyne Bachelot qui est ministre, et il faut en fait avoir à la fois cette puissance politique et derrière des formes de capital bureaucratique technique. Là, je réutilise le concept bourdieusien, puisqu'il faut maîtriser la chose budgétaire. Et vous voyez dans le profil des conseillers budgétaires et puis des conseillers sectoriels aussi qui gravitent autour des affaires culturelles, qu'il y a ces compétences-là extrêmement poussées et une connaissance très fine du budget du ministère de la Culture qui est petit mais qui est complexe, puisqu'il y a des formes de financement qui sont très différentes selon les différents secteurs. Et on peut identifier des parallèles. Il y a une troisième période qui est assez proche, que j'ai pas utilisée, qui est celle de la période de Jacques Duhamel au début des années 70, où vous retrouvez un peu cette puissance des entourages budgétaires. Alors, c'est pas le seul. Moi, je suis entré par ces entourages budgétaires parce qu'on en parle assez peu dans les travaux sur les entourages. Mais il faudrait aussi, évidemment, sous la période de Covid, rappeler l'influence des syndicats sur l'année blanche, par exemple, pour les intermittents, etc. Mais ces moments peuvent s'expliquer. J'essaie de traquer quelques explications sociologiques et politiques pour comprendre ces moments de rupture qui sont pas si fréquents que ça pour la culture.
En lisant, en parcourant certains de ces articles, j'ai eu l'impression, mais peut-être je me trompe, qu'au fond, il y avait assez peu de lien avec la dimension fiscale. En fait, il était question de dépenses budgétaires, mais au fond, les rentrées d'argent de l'État étaient peu articulées aux dépenses.
pense que ça, c'est le lien qu'on peut faire avec la période actuelle. C'est-à-dire que
c'est sans doute pour ça que j'y ai pensé.
Oui, on s'est vraiment centré sur les dépenses, effectivement. Et on voit qu'il y a des formes, des types de dépenses qui sont très... Mais c'est évidemment une matière qu'il faut penser de manière interdépendante. Et la difficulté qu'on
a... Quand on voit le débat autour de la taxe Zuckman, par exemple.
Exactement. Et puis les erreurs aussi de calcul, hein, des rentrées fiscales en période de politique de l'offre, comme il faudrait aussi élargir la réflexion au-delà du déficit à la question de l'épargne des ménages. On peut avoir un déficit très faible et des ménages très endettés. Donc il faut avoir ce faisceau d'interdépendance pour comprendre le fait budgétaire.
Merci beaucoup Thomas Elie. Je rappelle que vous avez co-dirigé avec Clémence Cardon-Quin ce numéro 149 de la revue Politics. On trouve la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les Idées, ainsi que celle du livre de Stéphanie Hennette Vaucher, Antoine Vaucher, dont on parlait aujourd'hui, une page sur laquelle vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. À la réalisation, Sorge Leroy.